You rock.
Classique 21, le moment M. Jean-Louis Lahaye.
Août 1969, festival de Woodstock. Bethel, État de New York. Au cœur de la nuit, une multitude de jeunes se pressent aux abords d'une scène immense. Toutes et tous attendent le prochain artiste qui doit se présenter devant eux. La foule est complètement crevée, amorphe. Ah, il va falloir la réveiller. Les musiciens sont attendus au tournant. Il faut dire qu'ils vont jouer pour l'événement musical du siècle. Woodstock. Le festival est l'un des succès les plus inattendus de la fin des années 60. Au lieu des 50 000 festivaliers prévus, ce sont 500 000 personnes qui ont débarqué sur le site. Depuis la veille, une marée humaine hippie s'agrège le long de la scène afin d'écouter certaines des plus grandes stars du moment. On y retrouve les Who, Jefferson Airplane ou bien encore la célèbre John Baez. Et puis, il y a ce groupe qui s'avance dans le noir. Creedence Clearwater Revival. Les spectateurs, tendus, n'acclament pas comme il se doit les musiciens un peu hagards. La pluie diluvienne de la veille a transformé le chant en une immense flaque boueuse. Mais qu'importe. Creedence s'avance avec confiance. Son dernier single, Proud Mary, est un carton. Une ascension qui s'est confirmée avec la sortie d'un nouvel album, il y a quelques semaines. L'opus obtient depuis lors toutes les louanges. Creedence Clearwater Revival s'élève au rang de méga-star du festival. Le retard accumulé avant eux les oblige à jouer au milieu de la nuit. Pas l'idéal pour clôturer une tournée jusque-là sans obstacle. D'un coup de baguette, le batteur lance les hostilités. Mais au chant, John Fogerty comprend que quelque chose ne tourne pas rond. Interloqué, il regarde son frère, Tom, à la guitare. Les musiciens ne voient rien dans la nuit noire. La foule devant eux ne bouge pas. Elle dort ou elle cuve aux joies. Il n'y a qu'un type, loin devant, qui se meut et hurle des encouragements à peine perceptibles. C'est bien simple. La prestation qui devait couronner de succès une tournée rudement menée est un échec notoire. Les soucis techniques s'accumulent. John au chant perd pied. Voilà que les morceaux s'égrènent et qu'il ne sait plus quoi faire. La fin du concert provoque quelques huées et peu d'acclamations. Le groupe, qui devait repartir avec confiance, est prêt à tout laisser tomber. Les frères Fogerty, estomaqués, ne trouvent plus les mots. Ils ont la tête sous l'eau, ne parviennent pas à comprendre la catastrophe qu'ils viennent de vivre. Et si c'était la fin de Creedence? Et si Woodstock venait de signer leur arrêt de mort? Il n'en est rien. Une fois leur tête remise à l'endroit, les frangins vont se mettre à bosser. Et ils vont se venger. Comment? En sortant en quelques semaines un titre qui va tout changer. Fortunate Son, l'hymne de toute une génération. Un moment qui aurait pu tout faire basculer du mauvais côté pour le groupe de San Francisco. Mais Creedence Clearwater Revival a de la ressource, assez pour marquer son temps et entrer dans la légende. Le groupe s'est-il inspiré de la vibe pacifique du festival Woodstock pour sortir son nouveau titre? Ce serait étonnant à la vue de leur désastreuse prestation d'août 1969. Pourtant, Fortunate Son est un hymne pacifique et plus encore, engagé. Engagé contre quoi? Le patriotisme américain et ses dérives. Il est loin, à la fin des 60s, le temps où l'oncle Sam était une divinité vénérée par tous les jeunes du pays. La contre-culture est passée par là, et on a tendance à détester tout ce qui peut toucher à la chose guerrière. Et ça tombe bien. Les États-Unis sont empêtrés en plein conflit au Vietnam. Voilà un peu moins de 10 ans que les Américains se sentent piégés dans le bourbier asiatique. Voilà une décennie que la jeunesse du pays y est mobilisée, dans des conditions bien souvent apocalyptiques. La contre-culture permet dès lors de se dresser contre le système, dans la musique ou la littérature. La dénonciation de la guerre est un sujet à la mode, que Creedence Clearwater Revival va s'employer à prendre à son compte. Mais plus encore que le conflit, le groupe va chercher à pointer du doigt les différences de classe face à celui-ci. Celles qui poussent les pauvres à aller mourir au Vietnam et les riches à pouvoir se planquer bien au chaud. Jugez plutôt avec ces paroles. Certaines personnes sont nées, faites pour porter le drapeau. Oh, ils sont rouges, blancs et bleus. Les couleurs ici déclamées renvoient à celles du drapeau américain, mais plus encore qu'une volonté de parler des enfants nés dans des familles patriotes. Ce que le groupe cherche à pointer du doigt, c'est que les plus modestes sont contraints de partir à la guerre. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne suis pas un fils de sénateur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Je ne suis pas un favorisé, non. Ce refrain, qui revient inlassablement au cours du morceau, vise à dénoncer les traitements de faveur. Se plaçant du point de vue d'une jeune recrue envoyée au front, les paroles visent directement les dynasties politiques et riches du pays. Pour les plus favorisés, pas de problème. Ils ne vivront pas la dureté des combats, planqués dans les bureaux. Ils sont protégés par la pire des injustices, celle de la naissance. Plus encore, le groupe cherche à montrer que ce sont les classes sociales les plus aisées du pays qui soutiennent l'effort de guerre. Le tout avec la facilité de ceux qui ne sont pas exposés directement. Pour le groupe, l'inspiration du morceau est née d'un mariage présidentiel. Quelques mois avant le festival Woodstock, la fille de Richard Nixon et le petit-fils d'Eisenhower se sont mariés. Une partie de la jeunesse y a vu la démonstration d'un entre-soi particulièrement critiquable. Creedence, de son côté, ne manque pas de le souligner à sa manière. Certaines personnes sont nées avec une cuillère d'argent dans la bouche. Mais les politiques ne sont pas les seuls à en prendre pour leur grade. Bien au contraire, Fogerty s'attaque aussi aux riches. Ce n'est pas moi, c'est pas moi. Je ne suis pas un fils de millionnaire, non, non. La dureté des paroles tranche avec la mélodie et la rythmique, toutes deux plutôt douces et peu saignantes, mais il ne faut pas s'y tromper. Fortunate Son est un hymne à la lutte des prolétaires contre les élites américaines. Le titre va connaître une notoriété ahurissante qui dépasse de loin les frontières américaines. Le single atteint la 3e place du célèbre Billboard Hot 100 et reçoit au cœur des années 2010 un Grammy Hall of Fame Award. Rien que ça. Cette saillie contre les instances gouvernementales ne va pas empêcher le morceau d'être joué en 2014. À la Maison Blanche, et ce, en présence du président de l'époque, Barack Obama. Comme quoi, la musique réserve parfois bien des surprises.
Ooh, Retrouvez tous les épisodes de cette séquence sur l'app gratuite RTBF Actu.
Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.